Les acteurs de la Pierre Papier. Une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les acteurs de la Pierre Papier aujourd'hui reçoivent Daniel Collignon. Daniel, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Alors je rappelle que vous êtes aujourd'hui le président de l'APCI, une association qui regroupe des distributeurs de produits financiers, et que vous avez dirigé un grand groupe d'assurance pendant plusieurs années, Spirica pour ne pas le nommer. Donc cette expérience en fait dans la sélection des produits d'épargne, et notamment dans la sélection des fonds immobiliers, vous amène à régulièrement analyser ces marchés. Et il y a un peu plus d'un an, vous estimiez, on va parler du marché des CPI d'abord, vous estimiez que les CPI qui étaient confrontés à des problèmes de liquidité n'avaient finalement pas suffisamment baissé le prix de leur part pour redevenir compétitive. Alors là, depuis quelques mois, quelques semaines, une partie de ces CPI ont décidé de suspendre temporairement la variabilité de leur capital, ce qui a conduit à l'ouverture de marchés secondaires sur lesquels des décotes de l'ordre de 60% ont été matérialisées. Alors est-ce que ça veut dire que ces CPI sont redevenus compétitives aujourd'hui ?
Eh bien, ce n'est pas la première crise immobilière à laquelle on est confronté. Alors, il y en a eu des récentes, et il y en a une très ancienne qui sert de référence à ceux qui l'ont vécu. Ceux qui l'ont pas vécu l'ont oublié, c'est celle de 90. Mm-hmm. Dans les années 90, on a connu une crise immobilière extrêmement profonde, avec une très forte baisse des valeurs immobilières, et qui d'ailleurs a été oubliée quelques années après. Mais le critère important de cette crise des années 90 et qui nous renvoie à l'observation de la crise actuelle, c'est que les prix n'ont pas baissé assez vite.
Les prix des CPI ou les prix de l'immobilier ?
Le prix de l'immobilier, à la base. Mmh, il y a même eu des manœuvres, certains institutionnels qui échangeaient entre eux de l'immobilier à un prix de convenance, parce que le fait d'avoir eu un échange, même presque fictif, leur permettait d'inscrire ce prix dans leur bilan. D'accord. Et donc, il n'y a qu'au moment où les prix ont fortement baissé qu'on a constaté un redémarrage de l'immobilier. Alors oui, il aurait fallu baisser les prix des SCPI, mais je l'aurais fait dans le cadre du capital variable. Alors pourquoi ? Eh bien parce que seule la gérance est capable de valoriser une SCPI. C'est elle qui connaît la composition de cette SCPI, c'est celle qui entend les brokers qui disent tel immeuble, je t'achète à tel prix, mais à tel prix, c'est absolument invendable. Et qui sont donc capables de dire aujourd'hui, si je la mets à ce prix-là, c'est quelque chose qui est dans l'intérêt du vendeur qui a besoin de vendre et d'acheteur qui se met en contrepartie.
Donc en fait, c'est pas le marché secondaire, le prix des marchés secondaires ne reflète pas la valeur réelle potentielle de la SCPI. On est soit trop bas, soit trop haut. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, c'était au gérant de fixer le bon prix.
Oui. Aujourd'hui, on est trop bas sur le marché secondaire. Parce que qu'est-ce que ça veut dire passer en capital fixe ? Ça veut dire se laver les mains de la valorisation. Mmh. Alors qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver, comme aujourd'hui, personne n'est acheteur d'immobilier. On va trouver quelques particuliers qui sont un peu malins, parce qu'ils savent que c'est le moment, et ce que j'appellerais des fonds vautours. Donc des opérateurs qui sont là pour acheter à un prix à la casse. En face, on a des particuliers. Alors, je ne parle pas des institutionnels, ils ne vont pas rentrer là-dedans. Hein. Mais on a des particuliers qui sont complètement démunis par rapport à la connaissance de ce marché. Il y a ceux qui ont absolument besoin de vendre et qui vendront au prix qu'on leur proposera. Et qui sera en aucun cas un juste prix. Ceux qui n'ont pas besoin de vendre, ils ont tout intérêt à attendre.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour restaurer la liquidité ? Alors, il y a notamment une notion de transparence qui se développe, c'est-à-dire qu'il faudrait plus de transparence pour que acheteurs et vendeurs soient plus en phase sur le prix. La SPIM travaille sur des indicateurs, justement, vous en pensez quoi ?
La transparence est le point clé pour relancer la collecte. Aujourd'hui, imaginez, vous êtes institutionnel, je ne parle même plus d'un particulier, et vous dites, c'est le bon moment pour acheter l'immobilier, mais pour acheter l'immobilier, comme les marchés sont difficiles, je vais essayer de trouver une vraie valeur, et puis je vais proposer 10% de moins. Mais comment, sur une SCPI, voulez-vous connaître la vraie valeur ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous donne ? On vous donne une liste des biens qui sont dans les SCPI, sans aucune analyse. Demandez à un gérant l'analyse des évaluateurs, il va vous rire au nez, il ne vous le donnera jamais. Demandez-lui l'adéquation entre les locataires qu'il cite, il cite les plus gros locataires, et les beaux qui en face, c'est absolument impossible. Vous pouvez avoir des locataires extrêmement de très belle qualité, dont le bail se termine dans 2 ans. Et puis, même si vous avez une durée des baux moyenne de 5 ou 6 ans, vous en avez peut-être plein à 2 ans, et puis d'autres à 20 ans, ça ne veut rien dire. On ne peut pas acheter dans ces conditions. Alors, les projets d'ASPIM sont pertinents, mais il faut de l'audace. Il faut de l'audace. Je vais vous donner un exemple de transparence aussi qui me semble essentiel. La transparence sur les revenus de ces pays. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'on pouvait avoir des baux de courte durée et d'autres de longue durée. Il y a quelques années, avant le démarrage effectif de la crise, un asset m'a présenté ses prévisions de loyer sur 2 de ces CPI sur les années à venir. Et on voyait quoi? On voyait que ça s'effondrait. Pour diverses raisons, mais il me dit, on va rien pouvoir y faire, ça ne peut que baisser.
C'est un très bon argument commercial.
Mais c'est jamais arrivé aux oreilles des acheteurs. Ils ont continué comme si de rien n'était, et puis ça a baissé comme ils l'avaient annoncé, parce que c'était évident. Il y a des loyers qui étaient trop importants, qui ont baissé. Il y a des vacances dont ils savaient qu'elles arrivaient sur des immeubles qui étaient absolument allouables. Voilà. Mais ce type de transparence, le fait qu'un acheteur de SCPI ne puisse pas avoir ce genre d'informations...
C'est pour ça que vous plaidez, enfin comme d'autres, justement, sur l'instauration d'une véritable notation des SCPI via un tiers de confiance. Mais il n'y a pas grand-chose qui est sorti sur le marché ces derniers temps.
Alors... par rapport à ça, il y a 2 options possibles. La première, c'est de gré à gré. C'est que un jour, un gérant qui a envie vraiment de faire repartir sa SCPI s'adresse à un institutionnel et lui dise « Je t'ouvre mes livres, nomme un expert qui soit capable de regarder ce qui se passe, et puis fixe-moi un prix, fixons un prix ensemble. » Ça pourrait avoir du sens. Bon, je ne l'ai jamais vu faire. Mais comme ce sont des opérations de gré à gré, on peut imaginer que ça se passe de temps en temps. Alors, l'idéal serait la notation. Alors, je ne parle pas de notation comme celle qu'on peut voir sur les entreprises où on est, ou sur les États, où on a une note point. Moi, ce qui me semblerait intéressant d'avoir, c'est une notation multifacteur. Quelque chose qui dise, si vous voulez du rendement d'immédiat, c'est ce type de SCPI qui a une bonne note. Si vous voulez du rendement à long terme et des espoirs de revalorisation, c'est tel autre type de SCPI. Et puis avoir quelque chose qui soit une forme de rond, vous savez, qu'on voit maintenant, des flèches à l'intérieur.
À différentes entrées.
Et alors, je me suis beaucoup intéressé à ça. J'en ai parlé à des gérants. Je n'ai pas, pour dire les choses, je n'ai pas rencontré un accueil extrêmement enthousiaste, en dehors d'un ou deux, qui me disaient « on est prêt à tenter le coup ». Et puis j'ai regardé s'il y avait des sociétés qui étaient capables de le faire. Alors il y a sans doute des sociétés qui seraient capables de le faire, mais en tout cas des sociétés capables de le faire et sur le marché, je n'en ai pas trouvé.
Bon, alors ça veut dire que aujourd'hui le marché va rester séparé entre les SCPI qui collectent, qui rapportent, et puis celles qui ne collectent plus et qui vont. Alors, est-ce qu'elles vont mourir? Est-ce qu'elles vont se réinventer, d'après vous?
Alors, les SCPI qui collectent, parlons-en, parce que c'est effectivement, on a 2 marchés, on a 2 mondes, et 100% de la collecte nouvelle se fait sur une poignée de SCPI. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces SCPI? On trouve des SCPI déjà qui ont un gros rendement. On reparlera du rendement parce que c'est un point clé. On trouve aussi des SCPI, et c'est un point qui est important, qui ont un réseau de distribution. Lorsqu'une SCPI est distribuée par un opérateur Internet, elle a plus de chances de se vendre que si elle est distribuée par des CGP. Donc, la notion de réseau de distribution est un point important dans celles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Et elles sont souvent un frais zéro. Là aussi, on en reparlera parce que la notion de frais zéro est quand même une notion un peu artificielle. Revenons sur le premier point, le rendement. On a aujourd'hui des SCPI dont la rentabilité est à 2 chiffres. Vous imaginez? Ça veut dire quoi? Déjà, il y a un élément qui est totalement factice et qui, à mon sens, devrait être interdit sous sa forme actuelle.
Le délai de jouissance.
C'est le délai de jouissance. Le délai de jouissance, si vous avez 50% de nouveaux clients sur une année, vous avez pendant 5-6 mois... 50% de non-rémunération, vous allouez ça à l'ensemble de la collectivité, vous gagnez 3 points de rendement. Mais c'est pas précisé. D'une part, on dit que c'est 6 plus 3, on dit c'est 9. Comment voulez-vous que le client final s'y retrouve? C'est un point qui me semble tout à fait étonnant.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, les nouvelles SCPI qui ont des rendements élevés sont peut-être paradoxalement plus dangereuses, plus risquées à terme que celles qui aujourd'hui ont des problèmes.
Ah, je dis ça aussi sans vouloir être systématique dans l'analyse, puisque aujourd'hui, c'est assez facile de trouver des biens immobiliers avec une très forte rentabilité, surtout si vous n'êtes pas très regardant sur la sécurité à long terme. Et donc, comme il n'y a aucune analyse, on revient au point précédent qu'on a évoqué. Comment voulez-vous savoir si cette telle ou telle SCPI qui annonce 7, 7,5, 8% de rendement, acheter des biens de bonne qualité dans des très bonnes conditions, ou s'est laissé aller et acheter de la deuxième ou troisième banlieue de villes, de provinces, voire de petites capitales européennes, dont elle sait parfaitement que si un jour le locataire s'en va, ce sera très difficile à relouer. Et je ne dis pas que c'est le cas. Hein, je dis que c'est impossible de savoir si ce n'est pas le cas.
Oui, donc en fait, la prévision dans les deux cas est impossible. Pas plus sur les anciennes que sur les nouvelles, finalement.
Ah, sur les anciennes, c'est aussi un vrai problème. Aujourd'hui, s'il n'y a pas des opérations majeures de restructuration qui sont faites, des anciennes ne repartiront pas. Je vous donne un exemple. On connaît tous telle ou telle SCPI. Par exemple, une SCPI santé, qui, pour des raisons, disons, de volume, plutôt que d'acheter que de la santé, ce qui aurait été quand même la base, vu son message, s'est mise à acheter du bureau. Bon, là,
je sais de qui vous parlez, mon titre.
Oui, mais bon, c'est pas le sujet. On a un exemple caricatural de SCPI qui aurait tout intérêt à se scinder en deux, une SCPI santé pure et une SCPI de bureau. Alors, je dis pas que tout est parfait dans les choix qu'ils ont fait d'investissement, mais au moins, le message serait clair. Et la SCPI de bureau pourrait être fusionnée avec une autre SCPI de bureau, et la SCPI de santé vivrait sa vie de SCPI de santé. Alors, ça ne se fait pas parce que c'est une SCPI qui est largement détenue par des assureurs, et certains assureurs sont très immobilistes sur le sujet. Mais certains assureurs prétendent qu'ils ne seraient pas gérer dans leur chaîne de gestion une unité de compte coupée en deux unités de compte.
Ouais, donc un problème technique. On arrive pratiquement à terme. Je voulais juste vous poser une dernière question dans ce qu'on avait prévu sur l'évolution des réseaux de distribution de produits financiers. Vous l'avez un peu évoqué. Il y a la concentration, la polarisation, le déplacement de la valeur du producteur vers le distributeur. C'est quoi là où les tendances qui vous semblent les plus structurantes aujourd'hui? Vous avez 45 secondes.
Deux choses. La première, on a vu émerger des réseaux qui se sont valorisés en changeant un peu leur modèle de distribution. Je pense en particulier à ceux qui se sont mis à vendre des produits structurés, qui ont gagné beaucoup d'argent avec des produits structurés, qui donc se sont valorisés. On a aussi des observateurs qui ont considéré que l'épargne et la retraite, c'était des points forts et qu'il fallait investir sur les réseaux de distribution. Je pense que ces réseaux, ils ont deux avenirs. Un premier, c'est rester dans le monde du private equity. Et ça peut être compliqué parce que au prix où ils sont, ça va être difficile d'expliquer qu'ils peuvent être encore plus chers.
Dans le monde du private equity, détenus par des private equity.
C'est ça, pardon. Okay. Et d'autres qui viennent d'être ou qui vont être achetés par des institutionnels, des assureurs, qui vont s'en servir pour distribuer leurs propres produits. Je pense que c'est le vrai avenir de ce type de distribution.
Eh ben, on en reparlera. Daniel Collignon, merci beaucoup. À bientôt.
Merci.
Les acteurs de la pierre papier, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Immo et sur toutes les plateformes de streaming.